There's fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs. Bienvenue à notre émission des livres pour dire de l'ISBL Scripta Linea, réseau de collectifs d'écrit. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de fêter notre 40e émission, puisque l'émission a commencé en octobre 2015, et nous le faisons en compagnie du collectif Balades en forêt, qui va nous parler du thème des masques. Et nous accueillerons d'ailleurs pour cette discussion deux écrivantes du collectif, Isabelle De Vrindt et Myriam Scoril-Sprist. Mais avant de démarrer notre discussion, notre échange autour de la question des masques, qui est le thème du collectif, je voulais vous annoncer que nous allons démarrer tout bientôt des émissions élargies à 1h30. Et nous avons aussi de nouveaux projets dont nous vous parlerons tout prochainement. Voilà, au micro, Fatia Idrissi et Cayetana Carion, et à la technique, Tamara Funza, pour assurer une belle émission ce soir. Bonsoir, Isabelle et Myriam.
Bonsoir.
Voilà, j'ai le plaisir de vous accueillir pour parler, échanger sur le collectif Balades en forêt, mais aussi à propos de votre thématique qui est celle des masques. Et donc, premièrement, je voudrais vous demander, qui êtes-vous ?
Eh bien, Isabelle commence, hein, puisque tu es la chef.
Voilà, tout de suite la chef. Non, surtout pas la chef.
Non.
Mais donc, quand même l'initiatrice du collectif voilà. Balades en forêt, Isabelle De Vrindt. Et donc, c'est vrai qu'on a lancé le projet du collectif Balades en forêt en septembre 2016. Et c'était certainement à l'initiative de Scripta Linea, mais aussi de la bibliothèque de forêt et de la commune de forêt dans le cadre du contrat de quartier durable ABI.
Et donc, quelle année ça vous êtes...
Alors, c'était en 2016, voilà. Et donc, on a là élaboré un parcours d'écriture avec des enfants et des citoyens adultes. Donc, c'était assez particulier. On avait choisi le thème de la beauté et de la ville.
Voilà, et ce sont donc des compilations que vous pouvez trouver sur le site de Scripta Linea, consultables librement.
Voilà, je rappelle peut-être pour les auditeurs et auditrices l'adresse.
Oui,
du site.
Oui.
Alors c'est www.collectifdécrit tout en attaché au pluriel et sans apostrophe, sans accent, .org.
Merci Isabelle. Et donc ce parcours est autour de la thématique des masques. Et juste un petit mot à propos de ce nouveau parcours. Quand est-ce que vous l'avez commencé ?
Mais dès le mois de septembre, je pense. On s'est mis en route à ce moment-là. Mais pour trouver le thème, justement, au début, c'est la recherche du thème.
Oui, et puis on fait connaissance aussi,
voilà,
pour, puisqu'on accueille de nouveaux membres, nouvelles membres. Ouais, ouais. Mais justement, à propos, toi, tu ne t'es pas présentée, Myriam, à ton tour.
Voilà. Eh bien, donc, je suis quelqu'un qui aime l'écriture et qui aime la peinture. Et donc, voilà, je suis entrée dans le projet d'Isabelle parce que c'était vraiment enthousiasmant et que je crois vraiment que l'écriture est possible pour tous et qu'il y a des choses qui doivent se décoincer pour que ça se mette en route. Et donc c'est un peu le défi et le pari, je crois, du collectif.
Oui, c'est ça. Donc effectivement, c'est un peu même le principe des collectifs en général. C'est de faire en sorte que l'écriture soit, non seulement elle est accessible à tous, mais on part du principe que tout le monde est capable d'écrire.
Tout le monde est capable d'écrire. Et donc, les choses les plus simples sont quelquefois les plus profondes.
Et c'est vrai qu'on tient à sensibiliser sur cette accessibilité de l'écriture et notamment en été, l'été passé, on a fait plusieurs jeux d'écriture sur la place Saint-Denis pour vraiment sensibiliser les passants, les participants à l'écriture comme vraiment outil d'expression accessible à tous, et puis aussi pour les inviter éventuellement à rejoindre notre groupe.
C'est ça. Et Myriam, je reviens à nouveau vers toi, juste pour que tu nous dises un peu plus à ton propos, et peut-être que ça va encourager d'autres à rejoindre les collectifs. Comment est-ce que tu as su l'existence? J'ai bien compris, c'est ton premier parcours.
Comment c'est le deuxième.
Ah, c'est le deuxième, c'est-à-dire d'accord.
Je suis entrée l'année passée dans le collectif, mais vers janvier, je crois, ou décembre, janvier. Et c'est ma fille qui est une amie d'Isabelle qui m'a dit que c'était une possibilité. Je suis entrée. C'était le thème des engrenages à ce moment-là. Mm-hmm. Et donc, un thème aussi assez terrible du point de vue social, parce que c'est vrai que les engrenages dont nous avons parlé dans nos textes, c'était souvent des engrenages qui broient. En même temps, ça pouvait être aussi des engrenages qui nous portent vers un mieux. Mais on n'en a pas tellement parlé de cela, je crois.
On a moins exploré cet axe-là.
Oui, c'était plutôt ce qui nous écrase.
D'accord. Et donc, tu as contribué aussi pour Engrenage, ou tu es arrivée en cours de
route?
Oui,
j'ai fait un texte, tandis que les autres en avaient fait plusieurs. Et donc, tout le monde a participé à ça, oui. C'était très gai. Parce qu'on va chaque fois dans un lieu différent de forêt. Et donc, ça, c'est vraiment une découverte, une exploration et une découverte de tout ce que forêt recèle. De lieux où des choses bougent, où de la création se fait. Donc, c'est très, très, très chouette.
Oui,
ça,
c'est vrai.
Et vous gardez cette itinérance à ce parcours-ci aussi.
Oui, on est tout le temps en route. Et donc, c'est vraiment très gai, dans un exode permanent.
Oui, si de faire du lien avec d'autres associations, des lieux.
Oui. Très gai.
Alors, pour ce nouveau parcours, donc le thème est celui des masques, mais comment est-ce que cette thématique est arrivée, comment vous avez pris la décision de choisir cette thématique? Pourquoi cette thématique et en quoi est-elle un sujet d'actualité?
On suit un petit peu toujours la même méthodologie, qui est la méthodologie des collectifs d'écrit, que tu connais bien, Cayetana, d'ailleurs. Et donc, la première rencontre, on a fait un brainstorming, on avait toute une série d'idées. Et donc, en fait, le processus, c'est quand même d'attendre la seconde rencontre pour faire un choix, de façon à ce que chacun cogite encore. Et alors, on parlait des lieux, des différents lieux. Et le deuxième lieu où on s'est rendu, c'était le siège social de Scriptalinia. Donc voilà, qui est un lieu, on va dire, semi-public ou semi-privé, enfin plus privé que public, dans le sens où il n'est pas vraiment ouvert au public, sauf lors d'un parcours d'artiste, par exemple. Mais sinon, ça ne se passe pas de manière très, très publique. Mais enfin, voilà, c'est aussi, à un certain moment, parfois facile de se rabattre sur des lieux qui sont plus accessibles pour nous. Mais donc, au mur était accroché un masque d'ailleurs que Myriam a dessiné, parce que Myriam, c'est très chouette, comme elle disait, elle se présente comme quelqu'un qui aime beaucoup dessiner, et écrire aussi, mais en tout cas créer. Et donc, voilà, elle a dessiné ce masque. On en a d'ailleurs fait une photo.
Je le cherche, mais je ne le trouve pas.
Ah oui,
c'est
voilà.
Peut-être dans
qui,
un
qui
autre
se trouve sur le web.
C'est la photo qu'on a mise en fait pour annoncer l'émission de ce soir sur le site des collectifs d'écrit. Et donc, en fait, de là est surgie la proposition, tiens, il y a le thème des masques. Et donc, on en a discuté de la manière que des autres thèmes. Et finalement, c'est effectivement ce thème-là qui a été retenu. Donc, voilà.
Et pour quelle raison ce thème a été retenu? Qu'est-ce qui a fait dans vos discussions que ça a convaincu tout le monde et que vous estimez, vous ressentez que c'est un thème intéressant et porteur dans le contexte des collectifs d'écrit, donc qui s'inscrivent dans un traitement littéraire de questions qui nous touchent, des questions d'actualité et qui nous touchent socialement, qui sont en rapport avec notre vie dans la cité.
Mais où est le jeu? Où est le moi? Quel masque nous impose la société? qu'est-ce que ce masque révèle ou cache de nous-mêmes. Et donc, c'est vraiment, c'est peut-être une des questions essentielles du point de vue de la vie en société. Est-ce que je peux encore être moi-même, ou est-ce que je dois offrir la figure que les gens attendent? Et donc, dans quelle mesure je dois me conformer à tout ce qui est, la bonne pensance, la bonne apparence aujourd'hui, ce qui est considéré comme tel aujourd'hui et qui sera encore différent dans quelques temps. Et donc voilà.
Oui, c'est vraiment ça qui a été la réflexion de ce moment-là. Bien sûr, les masques, le thème des masques, c'est quand même aussi un thème universel. Hein, ça, c'est clair que voilà, ça pose vraiment la question de l'être, l'être vrai, l'être à soi, l'être aux autres. Hein. Et puis bon, même le masque en lui-même est aussi quelque chose qui date de la nuit des temps, depuis que l'être humain existe, je pense, il y a des masques. Et donc, voilà, c'est clairement un thème universel. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, il se décline à travers notamment les réseaux sociaux, l'image qu'on va vouloir afficher dans les réseaux sociaux, une image parfois corrigée, améliorée, faussée. Enfin, voilà, c'est aussi la question de la protection, justement, par rapport à notre propre personne dans ces réseaux sociaux. Est-ce qu'on doit dire tout de nous, voilà, publiquement? Enfin, voilà. Donc ça, c'est peut-être aujourd'hui un thème qui... en tout cas, est exacerbé à travers les réseaux sociaux. Et puis, bon, on peut parler de politiquement correct aujourd'hui. Il y a vraiment un peu une tendance de vouloir lisser le discours. Est-ce qu'on peut encore dire des choses ou bien non, dès qu'on sort un petit peu de ce canevas ou de ce format, on est très vite fustigé. Et donc, quelle est notre liberté d'expression aujourd'hui? C'est pas si évident que ça, en fait. On a l'impression que c'est peut-être plus difficile qu'avant.
C'est vrai, je trouve qu'on est quand même dans des cadres relativement étroits de ce qu'il faut penser, de ce qu'on peut dire. Et donc, voilà, pas facile.
Et donc là, vous avez effectivement exprimé une vision assez spécifique, assez en accord en fait avec notre contexte actuel, hein, par rapport aux masques. Donc vous l'avez étendu notamment à la question des réseaux sociaux, mais aussi tous les mécanismes qui se mettent en place au niveau sociétal par rapport à notre liberté d'expression, parce que même si apparemment on est libre, ce n'est pas tout à fait clair, en tout cas pour moi, qu'on est vraiment libre, même dans des pays qui se disent démocratiques et libres. Donc, ça semble être un petit peu un fil rouge qui traverse la thématique que vous traitez, mais est-ce que vous avez exploré les différentes facettes du masque? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré, puisque les masques, ils ont aussi, si on les prend au pied de la lettre, il y a des milliers de représentations, la plupart très belles et très expressives aussi, qui racontent un petit peu ce qui se trouve derrière. Donc, est-ce que vous avez exploré ces différentes facettes, ou est-ce que vous êtes en cours d'exploration de ces différentes facettes?
Oui, je dirais qu'on est plutôt en cours d'exploration, qu'on en parle en tout cas assez souvent. Donc, on n'est pas uniquement axé sur l'écriture à partir du thème, mais on a vraiment des échanges sur cette thématique-là. À propos justement des masques et de la tradition du masque, en fait, il y a vraiment aussi eu cette réflexion sur l'interculturel et l'élément culturel du masque, la rencontre avec d'autres cultures. Bon, c'est vrai qu'on sort là des fêtes de carnaval, et puis on a encore régulièrement des carnavals de mi-carême ou des choses comme ça. Donc on est vraiment dans une époque de l'année où vraiment le masque est mis à l'honneur. Donc il y a cet aspect-là d'expression d'une culture. On se faisait aussi la réflexion, enfin, il y avait plusieurs personnes qui se disaient, mais en fait, est-ce qu'on n'a pas toujours un masque? Est-ce que, enfin, la question d'être vrai ou d'être authentique, est-ce qu'elle est juste aujourd'hui? Est-ce que finalement, on ne va pas être à l'autre en fonction du contexte, en fonction de qui est l'autre? Et enfin, voilà, ça c'était. On a encore des interrogations, des questions. Alors on peut aussi penser le masque comme aussi un support de protection, et donc voilà, c'est quelque chose qui effectivement est là pour peut-être nous protéger de certaines attaques extérieures. Enfin voilà, ça pourrait. Hein. Et à ce propos, on évoquait à un certain moment l'expression de Descartes pour avancer. J'avance masqué. Enfin, j'avance masqué. Voilà, larvatur prodeo. Donc l'idée de se protéger, de peut-être développer une stratégie. En ne se dévoilant pas totalement, certains objectifs pour pouvoir quand même arriver à ses fins. Enfin voilà. Donc il y a différentes façons de jongler avec le masque, et c'est vrai que il y a aussi beaucoup d'expressions hein, dans la langue française qui utilisent le masque et qui montrent combien cette thématique est riche.
Et je voulais aussi vous demander, est-ce que vous avez travaillé ces expressions au cours de vos rencontres?
Moi, je n'ai pas à cette question-là de choses vraiment à dire.
Non, moi, je n'ai pas l'impression. On n'a pas travaillé sur les expressions en tant
comme
que telles.
À partir de masques précis, par exemple, sauf peut-être tout au départ, le masque qui était donc dans le siège du collectif. Mais donc non, alors qu'il y a une telle richesse, par exemple, dans les masques des civilisations premières, c'est assez extraordinaire quand on va au musée de l'Afrique, là, de voir tout ce qu'il y aurait à revivre même, émotionnellement et même intellectuellement, et en lien avec la nature, en s'appropriant ces masques, en essayant... Donc j'ai dessiné et peint plusieurs de ces masques là-bas du musée africain à Tervuren. Et donc, aller vivre du dedans, on sent l'espèce de jonction que ces masques permettaient, c'était leur fonction, de créer du lien avec le monde de l'invisible, avec toutes ces forces. Et donc, ils avaient une dimension magique. Nous, on emploie ce terme assez bien, c'est magique. Par exemple, les illuminations de Noël, rue Neuve, c'est magique. Mais en réalité, est-ce magique? Mais les masques dont je parle, là, ceux-là avaient vraiment ce pouvoir de créer, de mettre en lien avec des arrière-mondes. Mais toute cette richesse-là, ce thème est tellement énorme, tellement vaste et tellement décisif pour notre espèce, parce que nous sommes une espèce masquée. Nous avons tendance à masquer notre animalité et à ne pas nous dévoiler comme les animaux que nous sommes. En même temps, les animaux, c'est magnifique. Je veux dire simplement que la conscience est une distance, et que cette distance est déjà instaure le port d'un masque. Donc voilà, c'est... Et donc, ce thème va loin, quoi, et part de loin. Et nous, sans l'explorer totalement, nous en disons des petites choses que nous pouvons vivre.
Oui, voilà. Ceci dit, c'est vrai, hein, ce que tu dis est vraiment intéressant, et ça fait penser au fait que, oui, seule l'espèce humaine se masque, je pense. Hein, donc, c'est effectivement le propre de l'homme, peut-être, de se masquer.
Quoique le changement de fourrure, on pourrait penser au changement de fourrure des animaux, certains animaux, entre l'hiver et l'été, c'est une façon de se cacher, en tout cas, des prédateurs.
Oui.
Et donc,
oui,
il y a peut-être cette dimension-là dans tout masque. comme on le disait déjà tantôt, c'est se protéger des prédateurs, les prédateurs humains ou d'autres.
Oui, alors, mais ce que tu soulignais, cet aspect magique ou enfin, religieux, ancestral, est également important. Et c'est vrai que moi, j'ai ressorti en fait un livre, un catalogue d'une exposition alors, qui s'était faite dans le cadre de Europalia Mexique. Alors, ça date de 93, donc oui, ça ne nous rajeunit pas. Ça s'appelait La Terre et le Paradis, et ça avait eu lieu au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Et alors, là, bon, ils reprennent cette idée d'utilisation du masque pour aussi représenter les pouvoirs surnaturels liés aux religions primitives et qui permettent, en fait, à celui qui le portait de s'identifier à ces pouvoirs-là, et donc à porter le pouvoir qui était représenté par le masque. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est intéressant. C'est pas uniquement pour se cacher qu'on porte un masque ou qu'on portait un masque, c'était aussi pour se donner des attributs magiques ou de force de la nature, par exemple, et donc aussi, on pourrait dire, d'apprivoiser le danger ou voilà, le mystère de la nature, par exemple.
Et vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est ce genre de force qu'on attribue au masque, est-ce que ce n'est pas plutôt la dissimulation aujourd'hui, un petit peu comme tu mentionnais, Isabelle, au départ, en démarrant la discussion? Moi, j'ai l'impression que c'est surtout la dissimulation aujourd'hui que signifie le masque tel qu'on l'a entendu à travers les réseaux sociaux, mais aussi masque de protection. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai cette image des masques à gaz contre le gaz, justement, pour nous protéger à l'époque, la Deuxième Guerre mondiale, pour protéger les gens des gaz mortifères. Donc voilà, et aujourd'hui, quand on est dans un moment où il y a énormément de questions liées aux sécuritaires et tout ça, donc voilà, moi, ça me fait penser beaucoup à ça. Alors, je ne sais pas si ça fait partie aussi de vos débats ou c'est plutôt la question symbolique et aussi en lien, évidemment, avec ces réseaux sociaux où, finalement, on peut être tout et n'importe quoi, sauf nous-mêmes.
Oui. Je sais pas
oui,
si
en même temps, le masque, de toute façon, est un vecteur de force, quand même. Et je crois que même si nous nous protégeons derrière un masque qui nous cache, il nous donne l'occasion de déployer une force que peut-être nous ne pourrions pas déployer si nous ne l'avions pas. Et donc, finalement, nous masquons et nous protégeons, c'est un axe de vérité, quand même, car nous pouvons, sur ce vecteur, tracer quelque chose de nous-mêmes.
Oui. Par rapport à ça aussi, et en préparation à l'émission, Cayetana, tu me parlais du maquillage, la question de se maquiller. Alors, c'est une question qui peut être sensible, voilà, et voilà, certains se maquillent, d'autres pas, enfin, certaines, en majorité. Et là, je me disais, justement, en faisant le lien avec ce que je lisais par rapport aux masques ancestraux, finalement, se grimer le visage, est-ce que ce n'est pas aussi souligner certaines forces ou se donner certaines forces aussi? Ça pourrait être masquer les rides, mais ça peut être aussi, voilà, un rouge à lèvres peut être un élément qui donne une force à une femme. Enfin voilà, c'est une. Je me suis fait la réflexion à partir de ta réflexion sur le maquillage, en sachant que moi personnellement je ne me maquille pas. Et donc quand j'ai lu par exemple un petit texte de Glenn Close, la comédienne, donc c'est quand même pas rien. Hein. Enfin le théâtre au départ d'ailleurs était un théâtre de masques, mais voilà, elle parlait de ses rides. Et elle faisait en fait un éloge à toutes ses rides, en disant voilà, ça c'est le sourire que j'ai eu quand mon enfant est né, ça c'est la ride de la larme que j'ai versée à tel et tel moment. Mais donc voilà, on traverse une vie et forcément le visage se marque de tout ce qu'on expérimente. Et pourquoi le cacher ? C'était un texte qui suggérait vraiment ça, j'aimais vraiment bien. Mais à la fois, voilà, je n'ai pas envie non plus de juger les personnes qui se maquillent, parce que c'est aussi peut-être une façon de se donner de la force, et puis aussi peut-être une façon de faire l'éloge de son corps, de souligner les attraits qu'on peut avoir. Donc je n'ai pas envie d'être dans le jugement tout en moi-même ne me maquillant pas.
Oui, et le sens, juste pour clarifier la chose, le sens de la question n'était pas tellement par rapport au maquillage en soi comme en tant que tel, qui peut supposer aussi ce que tu dis, Isabelle, c'est-à-dire une façon de renforcer certains traits pour justement exprimer quelque chose de fort ou d'affirmer quelque chose. Ma question était plutôt dans le sens, parfois on tente de cacher notre avancée en âge derrière le masque du maquillage ou de lifting et toutes sortes de choses comme ça, qui nous dissimulent, c'est-à-dire qui ne nous expose pas tels que nous sommes, mais dans l'objectif est en fait de nous dissimuler et de donner une image qui n'est réellement pas celle qui nous correspond. Voilà, et ça c'était le propos de la question, puisque j'avais lu tout un article sur quel est l'impact de la vieillesse chez les femmes, et ce qui n'est pas un simple thème, et du coup la question de la façon de masquer ça, de masquer précisément le grand âge, apparaissait au cours des siècles, puisque c'est pas quelque chose de nouveau.
Je me souviens d'un petit spectacle, c'est ancien. C'était la Galafronie, je ne sais pas si vous avez connu cette troupe de théâtre.
La Galafronie,
c'était du théâtre pour enfants, pour jeunes, et c'était Jean de Beffe qui avait créé ça avec sa compagne. Et donc il y avait une pièce où on voit Jean de Beffe qui, à part le fait de composer les spectacles, jouait dedans, on le voit avec un masque de vieillard. Et donc un masque de vieillard. Car la vieillesse elle-même, on pourrait dire que c'est un masque sur notre jeune visage. Et donc, et à un moment donné, il meurt, donc le vieillard meurt, et alors il retire le masque, et sa jeunesse éternelle apparaît. Donc il est dans un autre univers, où il est toujours jeune, avec son vrai visage. Et donc, est-ce que un vieillard maquillé n'essaye pas de restituer son vrai visage de jeune, celui qu'il a été? Je me souviens qu'à un moment donné, vers 50 ans, 55 ans, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, mais qui c'est ça? Donc, j'étais devenue, tout doucement, sans en avoir l'air, quelqu'un d'autre. Je ne me reconnaissais pas vraiment. Et puis, peu à peu, la chose s'est aggravée. Mais dès ce moment-là, j'étais quelqu'un d'autre. Voilà pour donc le masque de la vieillesse, hein, parce que ce n'est pas seulement le masque d'une fausse jeunesse que le vieillard se fabrique, mais son vieux visage plein de rides est comme un masque de théâtre pour jouer la pièce ultime de sa propre mort qui est en train d'arriver. Et donc voilà. Mais alors encore une petite chose que je voulais dire, moi dès l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à mettre du brun autour de mes yeux parce que je trouvais mes yeux trop petits. Et donc, une fois, une bonne amie, m'avait dit « Oh, quels jolis petits yeux !» Donc je me suis dit « Jolis petits yeux, c'est pas très gai hein !» Par exemple, ma mère avait des grands yeux, je trouvais ça magnifique. Et donc, j'ai mis du brun autour de mes yeux. Et maintenant, je me dis parfois « Non, ne vis pas mon âge, continue à mettre ce brun, c'est un peu nul, quoi !» Eh bien non, c'est moi, parce que depuis le début, mon sens principal, c'est le regard. Et comme tu disais, on veut peut-être souligner quelque chose à travers ce masque qu'on se compose, ce petit maquillage qu'on se met, c'est que le plus important pour moi, ce sont les yeux.
Merci. Alors, je propose de faire une petite pause avec Tomber le masque par Zazie. Et après cela, je demanderai à Isabelle ou à Myriam de lire, de faire la lecture du texte collectif écrit en automatique.
Voilà, donc c'était Tomber le masque par Zazie. Et Cayetana, comme tu me l'as demandé, je vais lire alors ce texte collectif. « J'avance masqué, » dit le loup en me tendant son masque noir en forme d'hirondelle. « Je n'ai pas peur des loups, » je lui réponds, « mais bien des masques et surtout des hirondelles quand elles ne font pas le printemps. » Les traits déformés, grimaçantes, les yeux clos, les poings serrés, maintenant elle se lève, elle va au travail. Hiver, il faudra qu'elle se recompose. Quoi ? Comme un visage aimable, souriante, convivial. Bonjour, tout va bien ? Oui, oui, bien sûr. Bonjour, jour bon, bon matin, bonjour. Souhait de qui ? De celui qui le dit ou de celui qui le reçoit ? Souhait d'entendre juste un merci ? Un « oui, ça va bien ?» Mais tout au fond, que sait-elle d'elle ? Comment se sent-elle ? A-t-elle seulement pris le temps d'y réfléchir ? De se poser ? Elle n'a pas eu d'accident ? Elle n'a pas de maladie ? Son père, sa mère sont en bonne santé, vu leur âge ? Elle a un job ? Un chien ? Une façon bien à elle de poser son regard sur les choses avant de répondre à ma question. Une voix calme, posée. Est-ce un masque ? Est-elle si paisible à l'intérieur ? Quels sont ses secrets ? On a tous une histoire.
Merci.
Ça, c'est vraiment un petit jeu d'écriture qu'on a fait lors d'une séance, un petit jeu d'écriture automatique. Donc, où on s'est passé la feuille et on a continué. Donc, ça a l'air d'être un texte suivi, mais en fait, on avait le droit que de lire deux, trois mots de la phrase précédente. Mais voilà, ça donne quand même quelque chose. Mais donc, ça n'a pas été retravaillé. Hein. Ce sera sans doute pas un texte qui paraîtra dans la compilation.
Merci Isabelle. Alors avant de continuer dans notre émission, dans notre échange avec Myriam et Isabelle, je propose de passer la main à Fatia qui co-anime avec moi cette émission. Bonsoir Fatia.
Bonsoir Caetana, bonsoir Myriam et Isabelle. Bonsoir. Je suis ravie bonsoir. De vous rejoindre, c'est un plaisir.
Oh ben, pareillement.
Et donc j'ai entendu des choses très intéressantes sur les masques. Et j'en retiens que porter un masque symbolique ou matériel, c'est en quelque sorte sa façon de déterminer son rapport au monde, à autrui, que ça soit dissimulation ou s'approprier des forces. C'est en tout cas une façon de s'identifier par rapport à ce qui nous entoure et de décider aussi de comment on se positionne. En tout cas, merci pour ces apports. Et moi, je voulais savoir en particulier où vous en êtes par rapport à l'écriture et quand est-ce qu'on peut vous lire surtout. Voilà.
Mais on a déjà écrit pas mal, je crois. Hein.
Oui, donc, c'est vrai.
Oui, oui.
on écrit.
Oui, voilà.
mais on n'a pas encore terminé, donc voilà, on fait un petit peu ce travail. Je crois que chacune, puisqu'on n'est que des femmes, on écrit voilà, plusieurs textes et on les retravaille au fur et à mesure. Et puis bon, voilà, il va falloir effectivement à un certain moment, relativement bientôt, oui, peut-être rassembler...
Choisir
oui, ce qu'on voudrait publier, parce que ce n'est pas toujours facile. Il y a aussi des choses qui sont très, très personnelles. Peut-être que tout le monde n'a pas forcément envie de justement les publier. Mais quand est-ce qu'on aura le plaisir de présenter tout ça dans l'espace public ? On ne l'a pas fixé encore. Et du coup, comme on ne l'a pas fixé, d'après moi, ce sera après l'été. Parce qu'il faut quand même le temps de préparer la compilation de textes, de mettre en page. Donc voilà, on va se donner le temps. En fait, on se réunit une fois par mois. On a un petit peu espacé les rencontres. Et du coup, voilà, ça prolonge un petit peu le parcours d'écriture.
Donc ce serait plutôt en septembre quoi, qu'on ferait la voilà. Présentation.
En tout cas, on doit le décider en collectif. Oui, on n'en a pas encore parlé. Donc voilà, c'est le collectif qui décide.
C'est chouette. Et vous êtes à la phase lecture ou pas encore ?
Ah oui. Ça on fait depuis... Enfin, on s'est mis à écrire très très vite. Hein. Donc Myriam disait, on a commencé en septembre. Et c'est vrai qu'on a choisi le thème début octobre. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est mis à écrire. Et donc, oui, on est assez active au niveau de l'écriture. Et c'est vrai qu'on aime bien aussi faire des petits jeux d'écriture pendant les rencontres en plus. Donc, oui, on écrit, quoi.
Et d'après les lectures, qu'est-ce qui ressort ? Un avant-goût ?
Il y a beaucoup de choses, hein. Voilà, il y a, je pense à un texte par exemple qui raconte voilà l'histoire d'une assistante sociale qui a voilà qui a face à elle apparemment toujours le même discours, toujours les mêmes types de personnes qui lui racontent un peu la même histoire et du coup qui se distancient un petit peu. Donc c'est la question de du masque ou en tout cas peut-être du masque qu'on pose aussi sur l'autre à travers un discours toujours similaire et du coup qui crée une certaine distance ou dans l'empathie. Alors il y a un texte que moi j'ai écrit, enfin que je dois encore retravailler, mais qui est très très personnel en fait, et qui raconte ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté avec ma belle-sœur qui était en fin de vie et qui a demandé l'euthanasie. Et donc puisque Myriam parlait voilà, de ces masques qui, de vieillesse qui nous font nous préparer à la mort. Voilà. Et c'était très, très étonnant, très beau de voir comment, en fait, cette personne s'était façonné un masque pour se protéger pendant sa vie, pour des raisons multiples. Et puis qu'à ce moment-là, moi, je l'ai vu pour moi lever son masque et tu parlais des yeux et ouvrir grand ses yeux, des yeux magnifiques que d'une certaine manière elle avait cachés pour se protéger. Enfin, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu et que j'essaye de faire passer du mieux possible à travers l'écriture. Je n'y suis pas encore arrivée, donc on verra bien. Voilà, je parle aussi d'un clown qui, enfin, d'un mime, pardon, un mime qui va se grimer pour mieux observer en fait les autres, la diversité du monde et pour aussi le faire justement avancer masqué, hein, le faire en étant masqué. Donc voilà, Myriam, tu peux parler peut-être de.
Mais c'est depuis le début, j'écris des textes un peu longs, un peu courts. Et là, récemment encore, un tas de tout petits textes me sont venus pendant un voyage, car un voyage en Sicile, et donc plein de visages, plein de masques anciens aussi, des choses très très belles. Et donc, ça déclenchait des choses. Voyager déclenche, ouvre des chemins d'écriture. Et donc, oui, voilà.
Oui, alors je pense aussi à un autre texte plus fondamental sur le masque en général et l'être social que nous sommes. Donc, voilà, enfin, ça va être de nouveau des textes très diversifiés, certains narratifs, d'autres poétiques et d'autres plus de réflexion. Voilà.
Comme chaque compilation promet toujours
oui,
des surprises.
Oui, c'est vraiment ça.
La diversité de styles. Myriam, tu voulais nous lire quelque chose ?
Oui, je vais. Mais je ne sais pas très bien quoi. Je vais lire juste un petit quatrain. Oui. ou deux petits textes. Le premier, fragment hirsute. Mais il n'y a pas de cheveux dedans, mais enfin, qui sait ? Tu portes le voile. Où il te porte ? Un voile. Comme un tunnel, un voile, comme une chapelle. Où je vois ici ceci, le chef ensanglanté d'un vieux sang coagulé, masqué, autoportrait en tablier, rayé, taché, de peintre, avec trois fois le modèle en miroir. Mais ça, c'est une peinture, il faudrait la voir en même temps. Et donc, c'est vrai que là, je m'étais peinte un peu en morte, après un infarctus, avec le modèle, avec le... Et voilà, des choses.
Merci en tout cas.
Des petits textes, mais bon...
On a parlé, c'est vrai, aussi des masques langagiers, de la diplomatie, hein, dont on dit que c'est une langue de bois, mais aussi de l'argot. Donc, ce sont aussi des formes de masques. Et puis, on se disait que finalement, tout art est masque parce que tout art est fiction et création. Enfin, voilà, quelques bribes de réflexion qu'on a échangées encore.
Mais justement, à ce propos... Je voulais vous demander, puisque vous avez beaucoup parlé du thème et vous l'avez exploré quand même sous pas mal de facettes différentes, et vous avez même avancé un petit peu ou dévoilé un petit peu de vos textes. Je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'écrire vous libère d'un masque, ou alors est-ce que ça vous fait avancer masqué ?
Oh ! Eh bien... sans doute un peu les deux. Moi, il me semble que nous sommes biface ou multiface, nous sommes comme des totems. Tu sais, on a des tas de visages et on peut tourner autour de nous et voir. Et qu'est-ce qu'on voit ? Et donc, voilà, écrire, c'est un de nos visages et ça révèle des choses, ça en cache. Non, ça révèle beaucoup. C'est révélateur, hein. Je ne sais pas, ça, c'est ce que je pense. Et toi, Isabelle,
oui.
Je sais pas.
Ça dépend un peu du contexte. Oui. Je crois aussi qu'on ne se connaît pas forcément toujours soi-même. Et, ça j'ai déjà expérimenté, que parfois des fictions me révélaient, mais sans que je m'en rende compte, et puis que c'est après coup, quand j'avais une distance temporelle, que je me relisais et que je me disais, mais au fond, ce que je disais là était en moi, je ne m'en rendais pas compte, je pensais que c'était vraiment uniquement un résultat d'une imagination, d'une créativité, point. Donc oui, c'est sûr que, enfin, je pense que je l'ai déjà dit, on met un peu de ses tripes dans ses textes, donc c'est pas tant des masques que ça. Maintenant, écrire des textes qui sont très très personnels, comme celui que j'évoquais tout à l'heure, ce n'est pas forcément évident, parce qu'effectivement, il va être lu par tous et aussi par nos proches. Et donc, peut-être que c'est une façon de se dévoiler et de nous rendre plus fragiles et peut-être plus vulnérables. Mais à la fois, pourquoi pas ? Je pense pour ça, j'en avais parlé d'ailleurs à une de nos rencontres de collectif, un petit texte que Ilios Kotsou a lu. Donc Ilios Kotsou, c'est un philosophe, psychologue, enfin un peu des deux, je pense, qui travaille à l'ULB, mais qui a une petite rubrique en radio sur la première, et qui, cette fois-là, avait parlé de cultiver l'art de l'authenticité. Et donc, il parlait effectivement de la question du masque, et quand même, lui, mettait une dichotomie. Enfin, c'est pour dire que, malgré tout, c'est vrai que le masque peut être un moyen d'être aux autres, mais voilà, ça, c'est une façon de voir les choses. Lui, il présentait autre chose, et donc parlait de l'authenticité et de l'importance d'être présent à soi pour être en cohérence aussi avec soi-même. Et peut-être que ce n'est pas si évident aussi d'être tout le temps présent à soi et d'être en connexion avec ce qui est douloureux pour nous, notre vulnérabilité. On n'a pas toujours envie de montrer nos fragilités aux autres. Et donc, dans ce sens-là, oui, le masque est une protection, mais lui dit, c'est une force que de pouvoir, d'oser montrer sa propre vulnérabilité. C'est une réelle force, et ce n'est pas c'est pas une faiblesse, c'est au contraire une preuve de courage. Et ça, moi, j'aimais bien cette réflexion-là, personnellement. Et donc, il disait qu'il était intéressant vraiment d'être en connexion avec nos points les plus douloureux, notre vulnérabilité, et puis de cultiver aussi notre présence notre être à soi pour être en cohérence. Et peut-être quand on est moins cohérent, quand on est un peu décalé de soi-même, de son être intérieur, peut-être que c'est à travers l'écriture qu'on révèle des choses qui sont en fait au fond de nous et qu'on se masque nous-mêmes.
Oui, tout à fait. Mais en tout cas, j'aime aussi l'idée de masquer ses fragilités. Et je pense qu'on les masque... Quand serait-il si on ne les masquait pas? Est-ce qu'on pense aussi à autrui, à qui on montrerait toutes ses fragilités, à qui on révélerait sa douleur, etc. Donc c'est une pensée qui pour moi va dans les deux sens. Donc je me protège, mais peut-être aussi je protège aussi les autres aussi de certaines choses qui m'appartiennent. Pourquoi je les mettrais à leur disposition? Qu'est-ce qu'ils en auront à faire? Et j'imagine aussi si tous les autres dévoiler leur fragilité, leur douleur, leurs expériences, comme ça, que serait le monde, donc, finalement, sans ces masques?
Mm-hmm. Oui, c'est une vraie question. Mais je crois qu'une piste, c'est effectivement oser être soi. Et ouais, peut-être que parfois, être soi, c'est justement ne pas tout dire de soi. C'est pas parce qu'on ne dit pas tout de soi...
qu'on
n'est pas soi-même, oui, finalement. Et donc, c'est au contraire peut-être respecter une partie de soi qui estime que c'est de l'ordre de l'intime, parce que ça pose la question de l'intimité aussi, mm-hmm, et qui fait que, on ne va pas l'exposer, effectivement, à tout vent. Et ça rejoint la question des réseaux sociaux aussi, hein, effectivement. Est-ce qu'il faut dire comment on sent tous les jours à tout le monde? Enfin, moi, je pense qu'il y a là des dérives, effectivement, qui, au nom de peut-être une certaine authenticité ou immédiateté, font qu'elles viennent parasiter, peut-être, effectivement, comme tu le suggérais, la vie des autres.
Et le paradoxe, c'est peut-être que, dans bien des cas, les gens livrent à travers les réseaux sociaux pas mal de leur intimité, mais sous un faux nom, sous une fausse identité. Alors qu'en écrivant, on écrit parfois avec un pseudonyme, mais souvent avec son nom propre, et on raconte par la fiction, donc avec une sorte de masque, des choses qui nous appartiennent, qui font partie de de nos ressentis, de notre vécu, de nos douleurs, et qu'on partage, qu'on livre en avançant masqué, mais sans pour autant nous voiler nous vis-à-vis des autres. Donc voilà, il y a un truc un peu paradoxal là que je trouve assez fascinant, et qui, en tout cas, ça me parle beaucoup, parce que je pense que l'acte de l'écriture joue beaucoup sur cet aspect-là. Donc, on dit beaucoup sans nécessairement se mettre à nu. Voilà. Ne pas être masqué, ça ne veut pas dire nécessairement être à nu. Ça peut vouloir dire autre chose aussi. Donc, voilà, ça, c'est un peu ce que m'inspire vos interventions et la thématique...
Oui, parce que c'est aussi une thématique, puisque vous êtes toutes les deux issues du collectif des Encres d'Ailes, mm-hmm, et vous m'avez dit que c'était une thématique que vous aviez pensée peut-être à un certain moment au niveau de votre premier parcours d'écriture, et puis finalement vous avez choisi
un autre thème. Elle était proposée, effectivement, elle était proposée.
Je ne me rappelle plus.
Je me rappelle bien. Je pense que dans la salle, il y avait le poster d'un atelier de théâtre et il y avait des masques. L'une des écrivantes avait proposé de travailler sur les masques. Et justement, on avait rapidement émis certaines questions ou réflexions autour des masques. Est-ce que ce serait des masques sociaux? Est-ce que ce serait des masques réels? Comment on va les interpréter? Et puis, je me rappelle qu'à un moment, tout le monde n'a pas accroché et qu'on est parti sur autre chose. Mais je me rappelle que j'avais gardé un petit pincement par rapport à ça, parce que j'aurais aimé écrire sur ça. Ouais. Ça me parlait beaucoup. Ça me parlait surtout au niveau psychologique, au niveau social, le masque qu'on se met, la distance qu'on garde par rapport à autrui. Et surtout, c'était des questions que je me posais à ce moment-là, la question de qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on garde pour soi dans l'espace social, dans l'espace intime, privé. Est-ce qu'on doit vivre avec ces masques? Et donc, je me rappelle bien que la proposition avait lieu, mais il n'y avait pas un consensus. C'est comme peut-être... on le sait, tout le monde le sait aujourd'hui, en tout cas tous les auditeurs qui suivent les parcours des collectifs, les décisions sont souvent collégiales. Donc s'il n'y avait pas un accord de tous par rapport au sujet, on passait à un autre qui pouvait avoir un meilleur consensus. Oui. Voilà.
Ouais. Maintenant, ton récit est intéressant parce que c'est là de nouveau un lieu, c'est le lieu dans lequel vous étiez qui vous a suggéré ce thème. Et j'aime bien parce que je crois que tu soulignais l'importance ou l'intérêt de traverser différents lieux et de découvrir tous ces lieux à Forêt. Et c'est vrai que ça a un impact, je pense, sur le parcours et sur ce qui s'y passe et sur.
C'est très mobilisateur, ça fait fonctionner, ça active les neurones et donc ça libère notre imagination.
C'est inspirant, ouais. Je pense. Ouais, je pense que les lieux qu'on visite, ils nous inspirent chacun à sa manière, chacun à son histoire. Voilà. Okay. Donc, on est partante aussi pour changer de lieu. Et c'est
une bonne idée.
Oui, c'est une très bonne idée au niveau des collectifs, franchement. Ouais. Donc voilà, j'aimerais pour finir demander à Isabelle quelle nouvelle de Scripta Linea. Comme on sait qu'il y a toujours du nouveau.
Ah oui. Oh, pour l'instant, il y a beaucoup de nouveaux qui se préparent. Oui. Mais on peut peut-être juste dire que pour le nouveau, pour les auditeurs et auditrices qui seraient intéressés. Par l'idée de lancer un collectif d'écrit. Il y a une formation qui se prépare, qui aura lieu le 13 et le 14 juillet. On a encore le temps, mais voilà. Les personnes peuvent s'inscrire déjà sur le site. Il y a un onglet « Formation ». Et donc, toutes les informations sont inscrites sous cet onglet-là et les modalités d'inscription également. Donc, ça, c'est vraiment la nouvelle... une des nouvelles essentielles que je peux partager. Maintenant, quand même, peut-être dire qu'on va très, très bientôt accueillir une nouvelle permanente à Scripta Linea qui s'appelle Violaine Jadoul et qui va nous rejoindre à partir du 1er avril. Et c'est loin d'être une blague.
Chouette, chouette.
Merci beaucoup. Merci à Myriam et à Isabelle.
Mais avec plaisir.
Et merci aussi d'avoir
partagé. Joie de vous rencontrer.
Et merci d'avoir partagé ce superbe thème très très prometteur et vraiment très intéressant que je pense va susciter encore plus d'échanges et de discussions. Voilà.
Merci,
et bien.
Merci à vous de nous avoir interrogés et avoir suscité en fait aussi notre réflexion. Et on n'oublie pas Tamara.
Bien entendu. Merci Tamara. Et merci aux auditeurs et auditrices.
Et peut-être si on a le temps pour une pause musicale, sinon voilà, à très bientôt.
En fait, oui, c'est ça. On avait préparé effectivement une autre chanson. En fait, dans notre collectif d'écrit, on a une chansonnière. Donc, elle est spécialiste en chansons françaises et donc elle nous a donné toute une série de suggestions. Et puis, en fait, il y a Sylla qui est un rappeur. Et j'ai découvert en préparant qu'en fait, il habite Forêt. Donc voilà, un forestois qui a écrit et qui chante Masque de chair. Donc voilà, on peut l'écouter.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Bonne soirée.
Merci.
dont les yeux auraient pu faire tomber le ciel au sol, faire croire au soleil qu'il est glace ou faire brûler la neige. Toi dont les yeux auraient pu faire aimer l'enfer aux hommes, ou même apprendre plus fidèle des moines à savourer la guerre. Toi dont les lèvres chantaient le diable avec cet accent d'ange, toi dont la voix aurait fait léviter un océan, toi dont la beauté m'avait délié, délivré, mais sous ta peau se déguisait un dérivé du mot néant. Toi qui avais mis le masque, toi qui avais mis le nom, toi qui avais mis le masque, mis le face et mis le monde. Tu clamais oui de face, mais ton âme criait non. Cette fois-ci plus de masque, sur les glaces les murs tombent. Sans visage tu m'as l'air vide, tu ne peux plus te planquer sous un masque de chair. Ça fait quoi d'avoir l'esprit à l'air libre? Vertige.
C'est-à-dire la façon dont le regard fonctionne dans la vie quotidienne.